Direct en jeu le Radio Insolite, toujours encore une semaine un peu spéciale, puisque une semaine de mise en lumière, de mise en valeur de la belle agglomération faite de la belle ville du Puy-en-Velay. Néanmoins, je n'y suis pas, puisque je vous rappelle que pour des motifs de mesures sanitaires et aussi par le fait des évocations et des commémorations qu'on est en train de faire pour Bertrand Tavernier, qui nous a quitté, Bertrand Tavernier, le président de l'Institut Lumière à Lyon, eh bien, j'ai décidé de maintenir toutes les interviews qui étaient prévues, toutes les rencontres, et je tiens à vous remercier, puisque là je suis cette fois-ci, attention, avec un guide conférencier. Bonjour Robert.
Bonjour.
Alors, vous êtes guide conférencier, comment est-ce qu'il faut vous présenter ?
Oui, ça va très bien, guide conférencier, et je travaille pour le compte du service Pays d'Art et d'Histoire de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay.
D'accord. Alors, première chose qui est importante, je sais que ça fait un petit moment que je suis les guides conférenciers, que je suis en liaison avec Grenat, qui est un regroupement de guides conférenciers de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Guide conférencier, ne m'en voulez pas sur le propos, c'est un vrai métier avec une carte professionnelle, c'est bien ça ?
C'est bien ça. C'est un vrai métier avec une carte professionnelle, même si le métier de guide conférencier est parfois un peu compliqué dans la mesure où nous sommes des gens qui, dans des secteurs géographiques et qui, touristiquement parlant, ne sont pas aussi intenses que d'autres, bien travaillons à la vacation et que, en cette période, par exemple, c'est assez compliqué dans la mesure où, comme il n'y a plus de visites, eh bien, les guides conférenciers sont sans travail et sans revenus pour la plupart d'entre eux.
Merci Robert de votre franchise, c'est important à signaler, hein, puisque moi je suis l'actualité des visites des filles, j'étais encore avec Nicolas Le Breton qui est guide conférencier sur Lyon, je suis avec pas mal de gens et c'est vrai que c'est important, moi j'insiste beaucoup sur le fait de cette carte professionnelle et du fait aussi de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que vous êtes carrément à votre compte, quoi, vous êtes indépendant.
Alors nous sommes, certains sont indépendants, d'autres pas, ce qui est mon cas. Moi je travaille vraiment pour le service Pays d'Art et d'Histoire, mais comme je vous le disais, donc avec des contrats qui sont des contrats de vacataires et qui forcément ne protègent pas beaucoup les gens quand il y a des difficultés comme celles que nous rencontrons actuellement.
D'accord. Est-ce que vous êtes un Pono d'origine ? Alors je tiens à rappeler que les
oui.
Pono, ce sont les habitants
oui,
du
Puy-en-Velay. Oui, oui.
On dit les Pono et les Ponotes ?
Les ponos, les ponotes. Il y a plusieurs formules. Pono, ponote, podo, podote, ou anicien, anicienne.
Ah bon ?
Les trois sont possibles.
Ah, d'accord. Okay.
Mais enfin, c'est pono, ponote qui est le plus utilisé. Hein.
Alors, qu'est-ce que vous faites au Puy-en-Velay, vous ? Vous êtes natif du Puy-en-Velay ? Vous êtes d'origine ?
Oh, moi, je suis un véritable indigène. Hein. Je suis du Puy, de parents du Puy, d'une famille du Puy depuis au moins 300 ans.
Je ne peux pas rebondir sur ce que vous venez de dire. Est-ce qu'on dit le Puy ou est-ce qu'on dit le Puy-en-Velay ?
Alors, aujourd'hui, on dit le Puy-en-Velay, puisque
oui.
Le nom de la ville a été quelque peu modifié. Dans les années 80, le maire de l'époque avait souhaité, pour préciser les choses, disons, de rajouter envelé, le vocable envelé au mot puits. Mais sinon, c'était le puits. Enfin, le puits est passé par plusieurs appellations. Ça a d'abord été Anicium, puis Podium Sancta Maria, donc le puits Sainte-Marie, puis le puits tout court. Et aujourd'hui, on est au puits envelé.
D'accord. C'est lié à quoi ? C'est lié à la religion ? C'est lié à toute l'histoire ?
Alors, c'est relié à la religion, à l'histoire, à la géographie. Hein. Il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte dans cette affaire-là. Mais le Puy-en-Velay, parce que le Velay était une province de l'Ancien Régime, et que ça précise un petit peu le message dans la mesure où le Velay était une entité dépendante du Languedoc. On était rattaché au Parlement de Toulouse, enfin voilà, donc une orientation pour le Velay qui est assez méridionale quand même, hein, et qui fait partie des originalités de notre pays.
On a juste oublié de dire, où est-ce que c'est le Puy-en-Velay au fait ?
Ah ben le Puy-en-Velay, c'est dans le département de la Haute-Loire, c'est la préfecture de la Haute-Loire.
D'accord.
Après avoir été la capitale du Velay, donc jusqu'à la Révolution française.
D'accord. Il y a des fois, on a l'impression qu'il y a, je sais pas, un cratère, un volcan juste à l'entrée du puits.
Alors le puits, enfin toute la région du Velay, mais particulièrement le puits et ses environs sont effectivement une terre volcanique, hein, puisque il y avait un grand bassin d'effondrement à l'intérieur duquel un certain nombre d'éruptions volcaniques se sont faites jour. Et aujourd'hui, on a tout un tas de reliefs assez pittoresques qui sont les vestiges de volcans ayant existé dans ce secteur.
Quand on vient au puits, quelle est la première chose qu'on voit?
Pardon?
Quand on vient au puits en Velay, quelle est la première
Oui.
chose qu'on voit?
Oh ben, je dirais que ce qui se voit le plus, c'est le rocher Corneille avec la statue monumentale de Notre-Dame de France, hein, cette statue de la Vierge qui a été inaugurée en 1860, qui était la volonté évidemment de l'Église à l'époque, rejointe en cela par l'empereur Napoléon III, qui a fait don à l'évêque du Puy d'un certain nombre de canons pris aux armées russes à la bataille de Sébastopol. Donc on a une statue qui est faite avec le métal de canon. Et cette statue, dont on peut dire qu'elle a été quand même pendant 25 ans, jusqu'en 1885, hein, elle a été la plus grande statue du monde. Elle a été détrônée par la statue de la Liberté dans le port de New York.
Si je dis pas de bêtises, la cathédrale et l'hôtel Dieu sont classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. C'est bien ça?
Alors, la cathédrale et l'hôtel Dieu sont effectivement inscrits au patrimoine mondial de l'humanité au titre des chemins de Saint-Jacques. Hein, il y avait eu un gros classement générique sur le thème du chemin de Saint-Jacques en France. Et parallèlement à ce classement global et générique, donc, un certain nombre de sites majeurs sur ce chemin de Saint-Jacques avaient été retenus. Et la cathédrale et son hôtel Dieu donc, font partie dorénavant du patrimoine mondial, oui.
Dites une question, quand je pense au Puy-en-Velay, je pense à la dentelle, je pense aussi aux lentilles, je pense au chemin de Saint-Jacques. Il y a d'autres choses que j'ai oubliées?
Vous pensez pas mal, c'est déjà
C'est
intéressant.
gentil, merci.
La lentille qui est probablement
Excusez-moi. Je suis désolé.
l'élément patrimonial le plus ancien, puisqu'on a retrouvé des lentilles dans des poteries de l'époque gallo-romaine, hein, du 2e siècle. Donc on cultivait la lentille sur nos plateaux Vélave il y a très 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 longtemps. Cette lentille qui s'est spécialisée, hein, en fonction du terrain sur lequel elle pousse et du climat auquel elle est astreinte, et qui lui donne les qualités donc tout à fait exceptionnelles qui font d'elle la première légumineuse de France à avoir profité d'une appellation d'origine contrôlée. Et cette lentille qui est effectivement dégustée sur toutes les grandes tables de tous les grands chefs de France et de Navarre. Quant à la dentelle, l'activité dentellière est étroitement liée à l'activité religieuse, puisque c'est probablement la venue de très nombreux pèlerins au puits qui va faire qu'on va vendre de la dentelle dans nos rues. C'est un souvenir qu'on pourrait ramener chez soi facilement. C'est pas lourd, c'est pas fragile, hein. Quand on marche à pied et qu'on n'avait pas envie de charger sa besace, c'était vraiment quelque chose qui fonctionnait bien. Cette activité dentellière va se développer à partir du 15e siècle chez nous, pour connaître son apogée au 19e, on va dire, avec l'adjonction à la dentelle à la main, de la dentelle mécanique, et cette dentelle qui aujourd'hui, malheureusement, sur le plan économique, n'est plus qu'un lointain souvenir, hein, et est devenue aujourd'hui véritablement un objet patrimonial, hein, avec en particulier l'Atelier national de la dentelle qui est installé au Puy et qui est une émanation du mobilier national à Paris où on a des gens payés par l'État qui créent, qui produisent encore de la dentelle, mais d'un très haut niveau artistique, on va dire.
D'accord. Je voulais m'excuser, j'ai oublié de. C'est pas, non, c'est pas le thé, c'est la verveine, je crois, c'est ça? Il y a quand
Alors,
même
on
un.
a aussi la verveine du Velay, mais qui est quelque chose de plus récent, hein. C'est une liqueur qui a été mise au point par un pharmacien du Puy au 19e siècle et qui a trouvé un terrain de diffusion assez large, hein, puisque c'est devenu un produit, effectivement, un produit d'appel touristique aujourd'hui. Et la
D'accord.
dentelle du Puy est tout à fait intéressant. Enfin, la dentelle du Velay. Là, pardon, la verveine du Velay est tout à fait prisée des visiteurs.
Comment est-ce qu'on peut expliquer que quand on parle du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, on pense tout de suite au Puy-en-Velay? C'est la capitale galactique, planétaire? Excusez-moi.
Bah, écoutez, il y a quand même une petite raison à cela, à savoir que le chemin de Saint-Jacques, donc, est une vieille affaire. Alors, il faut peut-être préciser que le Puy est une ville de pèlerinage qui remonte, de pèlerinage du Puy qui remonte au 5e siècle, grosso modo, qui a valu la construction de la cathédrale, puisque nous avons eu un miracle et qu'on avait une dévotion à la Vierge chez nous tout à fait particulière, dévotion qui se doublait donc de miracles qui se sont répétés, semble-t-il, au Moyen-Âge, hein, et qui ont fait que beaucoup de gens venaient ici. Ce pèlerinage marial se développant, eh bien, les évêques du Puy vont devenir des personnages importants, et ils apprennent très tôt, qu'on vient de découvrir, alors là on est au 9e siècle, hein, t'as déjà passé un petit peu, on vient de découvrir en Espagne le prétendu tombeau de l'apôtre Jacques. Et c'est l'évêque du Puy, dénommé Godescalque, qui, selon les historiens, serait le premier pèlerin étranger à l'Espagne attesté à avoir fait le pèlerinage de Saint-Jacques. Il est allé jusqu'à Saint-Jacques pour voir comment les choses se passaient là-bas, et de retour de Saint-Jacques, ayant bien compris que ce pèlerinage allait probablement se développer considérablement, il a décidé de se joindre à cette nouvelle dynamique, et il a fait du Puy la première ville départ pour Saint-Jacques de Compostelle. C'est-à-dire que dès le 10e siècle, les gens vont prendre l'habitude de se rassembler au Puy pour ensuite emprunter ce qu'il est d'usage d'appeler la Via Polientis, la route du Puy, donc, qui conduit des gens jusque là-bas. Alors, il y a d'autres sites qui vont se faire remarquer par la suite, hein, comme Tours, Vézelay, Arles, qui sont aussi des points de départ importants en France pour Saint-Jacques de Compostelle. Mais enfin, le Puy est le premier et le plus ancien de ces points de départ.
Allez, question indiscrète, il y a combien de kilomètres entre le Puy et Saint-Jacques? Puis ça fait combien de pas?
Précise, on va dire en gros presque 1600 kilomètres.
Combien?
1600.
1600 kilomètres à faire à pied?
Ouais. On a à peu près 800 kilomètres en terre française, hein, jusqu'à Roncevaux, enfin jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, et on a à peu près autant de kilomètres en terre espagnole.
Mon Dieu, au secours.
Il faut 2 mois de marche.
Ah, carrément.
2 mois de marche à peu près, avec une moyenne de 25 km quoi, par jour.
Quand vous le dites comme ça, on a l'impression que c'est hyper facile et tout.
Non, c'est pas facile. Hein, c'est pas facile parce que c'est un chemin, surtout au départ du Puy, il y a quand même pas mal de relief. Hein, on monte, on descend, on remonte, on redescend. Enfin, c'est pas tout plat. C'est pas un long chemin tranquille, tout à fait. Mais c'est par contre un chemin magnifique, avec des paysages superbes, chaque jour renouvelé. Enfin, c'est vraiment un chemin qui apporte beaucoup, beaucoup de plaisir à tous ceux qui le font, et parfois à ceux qui le font en n'étant pas bien préparés à la marche. Quelques petites mauvaises surprises, hein, les ampoules aux pieds sont quelque chose qui est assez terrible pour qui n'est pas un grand marcheur habitué, mais bon, ça vient, hein, ça vient avec l'expérience.
Quand on vient au Puy, est-ce qu'il y a un édifice à ne pas rater?
Alors,
je suis d'accord avec vous.
Quand on vient au Puy, il faut inévitablement passer par la cathédrale, d'abord parce que ça oblige à pratiquer les petites rues et ruelles de la vieille ville qui sont très pittoresques, très typiques, qui ont conservé en grande partie leur charme du passé, avec leurs pavages, leurs escaliers, etc. Et puis la cathédrale, qui est un monument essentiellement roman, qui est quand même un bâtiment à la fois assez superbe et très original, hein, cette construction quasi autoportée au-dessus du vide. Enfin, on joue avec le relief d'une manière assez magistrale, donc je crois qu'il faut passer par là. Et puis il y a il y a un petit monument, mais qui avait été fait spécialement pour les pèlerins de Saint-Jacques, justement, dont on a retrouvé la charte de fondation qui date de juillet 962. C'est la petite chapelle Saint-Michel-d'Aiguille, qui est construite sur un nec volcanique, hein, sur un éperon rocheux. Alors ça aussi, ça se mérite, hein, parce qu'il y a un long et un peu difficile escalier qui conduit jusqu'à cette chapelle,
Il y a
mais une
pas
fois qu'on est là-haut, c'est
d'ascenseur?
vrai. Pardon?
Il y a pas d'ascenseur?
Il n'y a pas d'ascenseur, non. Jusque-là, on a échappé à ces choses-là.
D'accord. Ce qui est bien aussi quand on vient au puits, c'est qu'on a l'impression qu'on est un peu aux États-Unis, parce qu'il y a un monsieur un peu connu qui est quand même né, pas très loin d'ailleurs, à Chavagnac.
Ouais, tout à fait, oui. Chavagnac, Lafayette, qui porte bien son nom. Et oui, il y a une histoire assez riche en la matière, hein, puisque Lafayette est originaire d'ici et qu'on connaît un peu son parcours, bien sûr. En France, il a eu une longue, longue carrière, hein. Il a participé à peu près à tous les régimes, hein. Né sous la monarchie absolue, il a traversé la Révolution française, puis l'Empire, la Restauration, et on le retrouve encore lors de la Révolution de Juillet. Traverse tous les régimes politiques avec comment dire, une réussite assez maigre, hein. Par contre, son heure de gloire, c'est quand il est tout jeune et qu'il part en Amérique pour aider les insurgés américains à acquérir leur indépendance. Et pour les Américains, Lafayette est vraiment quelqu'un qui compte énormément, hein. Il y a une quarantaine de villes aux États-Unis qui portent son nom, et c'est vraiment pour eux quelqu'un qui leur a beaucoup apporté, hein. C'est un peu le libérateur de ce pays, aujourd'hui évidemment très développé. Et les Américains sont assez friands d'un petit passage en terre du volet, justement, pour découvrir ce pays tout est natif, donc ce personnage aussi important à leurs yeux.
Allez, dernière question pour donner envie aux auditeurs de venir faire un tour au Puy-en-Velay. Je précise que je connais bien la ville, qui est fabuleuse, merveilleuse, qui a un quartier ancien extraordinaire. Il y a aussi le puits, mais plus côté lumière, l'événement puits de lumière, qui est assez important aussi.
Alors ça, c'est une volonté assez récente, hein, puisque ça doit faire 3-4 ans que c'est en place, où oui, on a voulu jouer un petit peu avec ce patrimoine, en lui apportant une petite touche de modernité et en essayant de, ben voilà, la nuit venue, de proposer aux visiteurs des mises en scène lumineuses assez particulières, hein, qui viennent magnifier. Je crois qu'on est à 7 monuments aujourd'hui sur la ville du Puy, avec quelques extensions sur Brive-Charensac, où on a un petit bout de la Jeune Loire qui est valorisé par ce type de manifestation.
Comment est-ce qu'on fait pour vous retrouver ou pour espérer faire une visite avec vous?
Oh bah écoutez, c'est assez simple, il suffit d'aller à l'office de tourisme, hein.
D'accord.
L'office de tourisme du Puy, avec lequel on travaille assez régulièrement, quand travail il y a, bien évidemment. Et là, ben, soit on me demande personnellement, soit on utilise les services d'un ou d'une de mes collègues qui sont là, comme moi, pour accueillir les visiteurs et essayer de leur montrer un peu ce qu'est la ville du Puy et quelles sont ses qualités premières.
Bah écoutez, je vous remercie parce que, vous voyez, moi qui connais depuis, vous m'avez donné un peu envie d'y retourner. Que les
Ben,
activités reprennent très vite et qu'il y ait plein de choses qui se passent de positives.
voilà, nous l'espérons tous, hein. On est vraiment sur les starting blocks là et prêts à accueillir tous ceux qui voudront bien nous gratifier de leur visite.
Bien, monsieur Dubois, je vous remercie d'avoir pris ces quelques minutes. Bonne journée à vous.
Merci.